Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans À votre avis, votre émission interactive qui passe de lundi à vendredi à 18h05 temps universel sur VOA Afrique et qui passe exceptionnellement ce soir en direct sur notre page Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de la 78e Assemblée générale de l'ONU qui a débuté à New York aux États-Unis. Les pays en développement réclament des réformes du système mondial pour atteindre l'avenir meilleur promis lors de l'adoption des objectifs de développement durable en 2015. Ces objectifs visent, entre autres, à donner aux populations les plus vulnérables l'accès à l'éducation, l'eau potable, une énergie propre et aussi la promotion de la santé. Il y en a en tout 17. Pensez-vous que les demandes des pays en développement sont légitimes? Quels sont les défis à surmonter? Est-ce que l'ONU peut parvenir à créer un monde meilleur pour tous? Nous allons en discuter avec notre invité Henri-Désiré Nzouzi, les analystes, sans oublier vos commentaires, bien sûr. Vous pouvez aussi maintenant nous contacter en direct au +1 202 205 26 33. +1 202 205 26 33 ou bien sur notre WhatsApp qui est le +1 202 297 60 89. +1 202 297 60 89. Et n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos opinions sur notre sujet de discussion sur Facebook. Merci de nous écouter. Au micro, c'est Nanit Talani. À la réalisation, j'ai firmé Max Koyawida et Trésor Matondo. Nous allons tout de suite introduire notre invité. Bonsoir, Monsieur Nzouzi.
Bonsoir, Nanit. Merci infiniment de me recevoir.
Alors, vous êtes en direct depuis New York où se tient l'Assemblée générale de l'ONU. Quelle est l'ambiance là-bas?
Écoutez, c'est une assemblée générale très particulière puisque on a pu noter l'absence notamment de 4 chefs d'État qui président chacun l'un des 4 pays membres du Conseil de sécurité. Il n'y a que Joe Biden en réalité qui est présent, mais tous les autres, que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit la Russie, bien évidemment, et bien évidemment le Premier ministre britannique. La première personne n'est venue en fait, et on voit qu'il y a effectivement une conséquence très visible de la fragmentation géopolitique et stratégique à laquelle nous assistons depuis maintenant un peu plus d'une année, depuis le début du conflit ukrainien. Ce qui veut dire que aujourd'hui, il y aura peut-être un peu moins de retentissement vis-à-vis de ces pays qui sont absents, mais les grands fondamentaux restent, les problèmes d'intérêt général persistent, et bien évidemment, le message sera passé par les chefs d'État africains qui seront présents et qui auront à cœur, évidemment, de rappeler la responsabilité collective à pouvoir résoudre les problèmes qui se posent avec acuité.
En tout cas, ces problèmes qui se posent avec acuité sont principalement ces objectifs du développement durable dont nous allons discuter tout à l'heure. D'abord, nous allons écouter le commentaire que Massangolo a laissé sur notre numéro WhatsApp.
Bonsoir, VOA Afrique, Massangolo à l'appareil. Actuellement, l'ONU qui est là n'arrive pas vraiment à s'occuper réellement des grands problèmes de ce monde. Et malheureusement, avec il y a eu des précédents, la guerre au Sahel, les Nations Unies, avec la MINUSMA, n'est pas arrivé à circonscrire. Et puis aussi l'Irak, la guerre du Golfe, et l'absence de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité aussi marque vraiment la faiblesse de l'Organisation des Nations Unies. Donc, toute ma crainte est que de voir l'actuelle ONU vraiment disparaître au profit d'une autre organisation, ce que je ne souhaite pas. Donc je lance un appel vraiment aux Nations Unies pour que les règles puissent changer, l'Afrique puisse intégrer le Conseil de sécurité et qu'il y ait vraiment des mesures fortes pour que cette organisation puisse répondre dignement aux besoins de ses membres. Merci beaucoup.
Alors, M. Nzouzi, vous avez écouté le cri de cœur de Massangolo. Que pouvez-vous dire à propos de ce qu'il a, de ses paroles?
Je comprends tout à fait son cri du cœur et sa déception, notamment quant à la nécessité de réformer un système qui est devenu quelque peu désuet, puisqu'aujourd'hui, on voit avec cette reconfiguration géopolitique et stratégique, on a des blocs qui s'affrontent, mais il y a aussi, il faut bien le dire, et là je reviens sur les pays africains, une responsabilité à d'abord, je dirais, être en capacité de régler ses propres problèmes et ne pas tout attendre des Nations Unies. C'est vrai qu'il y a eu des crises importantes sur le plan sécuritaire, mais aussi dans d'autres domaines, mais il est vrai aussi que l'Afrique devait faire sa part en essayant de trouver des solutions idoines et en développant des mécanismes internes de mutualisation pour pouvoir résoudre ses propres problèmes. C'est vrai que l'Afrique a été soumise à rude épreuve, avec notamment la crise de la Covid, il y a de cela 4 ans, et aujourd'hui avec notamment le conflit ukrainien qui a fortement impacté sa capacité à s'approvisionner notamment en céréales, et je ne vous parle même pas de l'impact dévastateur du dérèglement climatique dans beaucoup de pays africains, mais tout de même, il faut que nous puissions aussi être en capacité de nous réapproprier notre propre destin et ne pas attendre éternellement que les réponses nous soient proposées par les Nations Unies. Et à ce propos, je dois dire que quand vous regardez l'historique des crises de ces dernières années sur le continent africain, vous verrez que les Nations Unies, à l'exception de quelques dispositifs tels que la MINUSMA qui a été démantelée il n'y a pas très longtemps, et maintenant nous avons encore la MONUSCO en RDC, a plutôt tendance à sous-traiter la résolution de certains conflits par les organisations régionales ou sous-régionales. On a l'exemple de la CEDEAO notamment, qui est intervenue dans beaucoup de situations en Afrique de l'Ouest. On pense évidemment au coup d'État au Burkina, au Mali, en Guinée et maintenant au Niger. Et puis récemment, la CEAC qui a essayé de faire une médiation au Gabon, mais qui a tourné relativement court, puisqu'on le voit, les nouvelles autorités gabonaises ont mis en place des institutions. Donc, nous devons d'abord nous réapproprier notre destin avant d'aller trouver des solutions en externe. Et nous aurons l'occasion d'en parler avec notamment ces fameuses ODD.
En tout cas, on va y revenir, notamment lorsque vous parlez des interventions des organisations sous-régionales. Nous allons y revenir. En attendant, nous allons prendre Ali. Il est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir à la VOA Afrique, bonsoir à toutes les auditeurs et auditrices de la radio VOA Afrique.
Alors, que pensez-vous des demandes des pays en développement pour rendre leur population heureuse?
Bon, c'est vrai, l'objectif de l'ODD est d'éradiquer la pauvreté en Afrique et dans le monde. Et plusieurs représentants africains ont abordé le sujet, c'est-à-dire qu'il faut développer le secteur agricole. Mais là, il ne suffit pas seulement de développer le secteur agricole, ou bien de stimuler, ou bien de redémarrer le secteur agricole, mais plutôt de sauver l'agriculture en question. Puisque si notre monde d'aujourd'hui continue sur le même rythme d'aujourd'hui, d'ici en 2050, la température mondiale va augmenter de 2% de degrés Celsius. Et que voilà, une fois en Afrique, les agriculteurs africains se retrouvent avec des graines qui explosent. Donc, ça sera la fin de l'agriculture en Afrique. Mais les Africains ne demandent pas de gratte-ciel ni d'être tous embauchés. L'Afrique demande, c'est-à-dire il faut la réparation de toutes les savanes africaines afin de simuler, c'est-à-dire le montée de l'effet de serre qui gangrène l'atmosphère africaine et le pays africain.
Merci beaucoup. Puis, oui, allez-y, s'il vous plaît.
Oui, et puis une fois que les dirigeants africains se réunissent dans des assemblées, comme celle-ci, il faut qu'ils prennent les mêmes itinéraires afin de résoudre une crise que plutôt d'exposer 1000 crises et de revenir et on n'arrive pas à résoudre toutes les crises à la fois.
Merci beaucoup, M. Ali. Alors, M. Nzuzi, lui, vient d'aborder la question de l'agriculture. Donc, là, nous sommes à l'ODD 2 qui veut éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, mais aussi améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de sauver l'agriculture en Afrique?
C'est tout à fait possible à condition que certains pays africains qui sont soit tournés vers des industries extractives ou vers d'autres types de secteurs d'activité puissent diversifier leur économie. Puisque vous parlez effectivement de cet objectif des ODD, il faut quand même rappeler qu'avant les ODD, nous avons eu les objectifs du millénaire pour le développement, les fameux OMD, qui sur 15 ans, normalement entre 2000 et 2015, devaient permettre à l'époque aux pays africains de réduire de moitié la pauvreté pendant que les ODD privilégient son éradication. Et donc c'est depuis effectivement le 25 septembre 2015 que les 193 dirigeants de la planète se sont engagés vers ces 17 objectifs. Mais on le voit, ça n'a pas toujours été facile pour la simple et bonne raison que lorsque vous décidez de planifier ou en tout cas de donner un agenda clair que chacun se doit de respecter, vous ne tenez pas toujours compte des spécificités des pays et des réalités locales. On n'est pas tous logés à la même enseigne, même s'il est vrai que sur ces fameux objectifs de développement durable, il y a 169 cibles qui forment en réalité le cœur de cet agenda et qui couvrent en fait l'intégralité des enjeux du développement durable tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, l'agriculture a une place très particulière puisque l'activité aujourd'hui n'est pas très développée. L'Afrique aujourd'hui n'exploite en réalité que moins de 10% de son potentiel agricole. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des mécanismes qui permettent de mettre en valeur cela, mais il faudra aussi qu'il y ait de sérieux efforts de gouvernance pour permettre aux différents pays qui sont effectivement concernés ou impactés par ce secteur de pouvoir envisager des mesures qui leur permettent justement de ne plus être tributaires d'importations. Ce n'est pas normal qu'en 2023, vous avez des pays qui ont un potentiel agricole considérable qui continuent à importer de la tomate ou des céréales.
Merci. À votre avis, nous discutons des ODD. Si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez intervenir, vous pouvez commenter, poser vos questions en direct sur +1 202 205 26 33. Nous avons Charles Bazema qui a laissé son commentaire sur notre numéro WhatsApp. Nous l'écoutons.
Bonjour la Voix Afrique, bonjour à tous les amis. Moi c'est Charles Bazema depuis Ouagadougou. Encore un sommet de plus, encore une assemblée générale de l'ONU de plus. À mon avis, moi, je n'attends rien de cette de l'Assemblée générale de l'ONU parce que elle doit d'abord commencer à respecter ses anciens engagements, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique où ces grandes puissances ne respectent pas les recommandations des COP. Voilà. Et c'est eux aussi, ces grandes puissances qui sont à la base des malheurs du monde. Quand un pays comme les États-Unis se permet d'envahir l'Irak, un pays comme la Russie envahit l'Ukraine, un pays comme la France et l'OTAN envahit la Libye, et c'est tout cela qui amène que le monde n'a pas la paix. Oui, on est sans savoir aussi, on a vu lors de la pandémie aussi, les grandes puissances qui ont créé des vaccins pour les pays et ont tout fait pour que les pays pauvres ne gagnent pas. Moi, je crois que le véritable problème de ce monde, c'est les grandes puissances. Les pays en voie de développement demandent que deux choses, c'est-à-dire la vie et une meilleure santé. C'est
à votre avis sur VOA Afrique.
Alors, Monsieur Nzuzi, nous avons eu Charles Bazema. En tout cas, il est un peu sceptique sur le fait que l'ONU soit capable de garantir la paix, la sécurité, tout ce qui est inclus dans les ODD. Quels sont les principaux ou les principaux défis qui restent à surmonter pour atteindre ces ODD?
De nombreux défis qui se posent à l'Afrique. Il y a notamment la croissance démographique, les défis environnementaux, les défis politiques, capacité à mettre en place une véritable politique de développement durable. Cela étant, pour les pays qui sont concernés, cela exige aussi et surtout un changement, je dirais, qualitatif dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, parce que pour faire en sorte qu'il y ait de véritables transformations structurelles de l'économie, il faut des réformes politiques d'envergure qui semblent nécessaires, ou qui le sont en tout cas pour accélérer un tant soit peu la croissance. Maintenant, je suis assez d'accord avec le scepticisme du dernier intervenant, dans la mesure où le monde a beaucoup changé. Les Nations Unies, c'est depuis 1945, mais en 78 ans, le monde a beaucoup changé. Quand vous regardez toutes les crises qui se sont succédées, quand vous regardez la manière dont certaines ont été résolues, quand vous voyez comment s'est construite une partie du monde, on pense évidemment à l'Union européenne, on pense à la constitution de blocs importants comme les BRICS aujourd'hui, on voit qu'il y a une logique d'affrontement avec en toile de fond un véritable choc de civilisation qui ne dit pas son nom. Et donc l'Afrique ne doit pas rester spectateur, il doit cesser d'être une sorte de variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'on vient chercher les Africains quand ça vous arrange, quand on veut reprendre un avantage concurrentiel par rapport à un autre bloc, on se souvient qu'il y a les Africains doivent arrêter de se prêter à ce jeu et se prendre en main. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, effectivement, c'est facile à dire. Eh ben non, il se trouve qu'en Afrique, il y a effectivement, je dirais, un espoir, il y a des zones qui sont potentiellement encourageantes et qui font que si l'on s'y met réellement, on peut y arriver. Mais il faut d'abord rompre avec une forme de victimisation, il faut arrêter avec les postures victimaires et être volontaire dans la prise de décision et dans les initiatives. Aujourd'hui, les Africains peuvent librement se choisir leurs alliés, et tant pis si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. On l'a vu l'an dernier lors du vote qui avait été organisé pour condamner l'agression russe en Ukraine. On a vu qu'une partie importante des pays africains s'était abstenue et d'autres n'avaient même pas pris part au vote, ce qui montre bien qu'à ce moment-là, nous avons basculé dans un monde nouveau où l'Afrique entend bien prendre toute sa part.
Merci. Nous allons au Tchad. Bertin Tomnabel est en ligne. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Vous nous suivez bien? Allô? Bon, nous avons un peu des problèmes techniques. Nous allons revenir vers vous. Nous allons d'abord écouter M. Koulibaly qui a laissé son commentaire sur notre numéro WhatsApp.
Bonjour à tous les auditeurs des VOA. C'est M. Yipieri Koulibaly depuis la Côte d'Ivoire Abidjan. L'ONU ne peut pas créer un monde meilleur dans le sens où l'ONU même n'est pas claire dans ses positions. Vous voyez, je vais donner quelques exemples. Je donne l'exemple de la Russie. La Russie a eu une résolution qui le permettait d'agir par la force pour se faire entendre. Voilà. L'ONU a eu quelle position après? Voilà. Après tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, l'ONU a eu quelle position? Voilà. Pourtant, la Russie a une résolution qui lui permet de faire cela. Voilà. La Libye. Qu'est-ce qui se passe en Libye? L'ONU était assis et puis les États-Unis ont attaqué, avec la France ont attaqué Kadhafi, ils ont tué Kadhafi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Libye? On a deux gouvernements en Libye, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? Le Mali, le Burkina, le Niger, tout ça. L'ONU est où? Regardez le Mali ces derniers temps. Les civils ont été attaqués par les terroristes. Le bateau a été incendié. Ils ont tué beaucoup de personnes. On ne peut même pas donner le nom. Qu'est-ce que l'ONU a fait? L'ONU n'a même pas condamné. Il n'y a aucun pays qui a condamné, si je me trompe. Voilà, vous voyez, donc l'ONU a perdu toute crédibilité. depuis 1945 que l'ONU a été créée, elle doit revoir sa feuille de route. C'est déplorable tout ce qui se passe. L'ONU, on a l'impression que l'ONU est gérée par les grandes puissances, les États-Unis, la France, l'Allemagne et autres.
Nous allons écouter un autre commentaire de Bernardo Vieira.
Alphonse Bouakida, à votre avis, moi je pense que c'est un peu difficile que, avec ce système, avec le système des Nations Unies, que nous puissions arriver à un monde meilleur. Parce qu'il y a trop d'injustices. Vous savez, les grandes nations les plus puissantes travaillent pour leurs intérêts. Dans nos relations transactionnelles, il n'y a pas de gagnant-gagnant comme on le réclame souvent. Souvent, il y a un déséquilibre dans les transactions commerciales. Alors que s'il y a équilibrage, ça peut aider les pays en développement à pouvoir atteindre les vrais développements. Mais l'accès à la santé, on a vu avec la COVID, les États puissants ont découvert des vaccins, mais la distribution de ces vaccins-là faisait défaut. Ça s'est borné seulement à leur niveau et cela est descendu dans les pays pauvres avec difficulté. Il y a beaucoup d'injustice toujours en ce qui concerne le système monétaire international.
Alors, M. Nzuzi, nous revenons vers vous. Est-ce que vous pensez que créer un monde meilleur est possible? Est-ce que l'ONU pourrait y parvenir?
Alors, je dirais qu'un monde alternatif est toujours possible, mais à condition de rompre avec une certaine hypocrisie. Je pense qu'après 78 ans d'existence, il est temps de dépoussiérer et de rajeunir les structures en étant un peu dans l'air du temps, parce que le monde a véritablement changé, de nouveaux acteurs émergents sont apparus, ils ont un poids relativement important. Quand vous prenez l'Afrique par exemple, les pays qui avaient l'habitude d'y faire l'appui et le beau temps sont aujourd'hui en difficulté, ou pratiquement, j'allais dire, marginalisés. Vous avez des acteurs comme la Chine, la Turquie, l'Inde, et la Russie dans une certaine mesure, qui contrarient ou bousculent en tout cas les certitudes des puissances traditionnelles occidentales. On pense évidemment à la France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, on a véritablement changé de paradigme. Et il faut tenir compte de ce paradigme. Vous avez sur le continent africain une population jeune qui a de nombreuses aspirations. Vous avez effectivement sur le plan économique le déplacement du centre de gravité de l'Occident vers l'Asie du Sud-Est et certains pays du Pacifique, voire même d'Amérique du Sud. Vous avez des regroupements qui se sont soit par opportunisme politique pour contrarier cette ambition occidentale, soit pour essayer de rééquilibrer les rapports dans le monde. On a évoqué tout à l'heure les institutions de Bretton Woods qui datent de 1944 et qui, aujourd'hui encore, continuent de régenter une partie du monde. Eh bien, l'arrivée des BRICS est une réponse à cette hégémonie qui est bousculée dans ses certitudes et qui permet aux pays qui ont le plus de besoins de pouvoir envisager une alternative. Donc ce rééquilibrage me semble salutaire à condition qu'il se fasse sur des bases saines et qu'il n'y ait pas d'agenda caché. Parce qu'effectivement, même si l'on peut se réjouir par exemple de l'arrivée des BRICS, on ne peut pas non plus nier qu'au sein des BRICS, vous avez une rivalité entre l'Inde et la Chine, entre deux autres pays qui viennent intégrer, on pense évidemment à l'Arabie Saoudite et à l'Iran. Bref, on ne fait que déplacer un problème pour afficher une posture vis-à-vis des États-Unis, par exemple, et du monde occidental. Et dans tout ça, évidemment, l'Afrique est quantité négligeable. C'est donc aux Africains de savoir exactement ce qu'ils veulent. Et il faut donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, être en capacité de créer des passerelles entre pays, de créer des synergies, de mutualiser ces efforts pour avoir des objectifs communs à atteindre.
Merci beaucoup, M. Nzuzi, d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission qui était consacrée aux objectifs du développement durable. À la présentation, c'était Nani Talani. À la technique, j'étais assistée de Max Firmin-Koyawida et de Trésor Matondo. Au revoir à toutes et à tous.